Après l'espérance, la joie en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et comme personnage, nous avons choisi Marie dans l'évangile de Luc. Alors, chaque période de l'Avent, je parle de Marie, mais souvent sous l'angle de cette jeune femme prête à partir à l'aventure, jeune fille presque. L'aventure avec Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Wow, quelle foi, quelle obéissance, quelle aventurière, cette Marie. Mais aujourd'hui, on va parler de Marie par rapport à cette joie, par rapport à la joie, cette joie qui se trouve lors de la visite de sa cousine Élisabeth, qu'on appelle la visitation, qui attend un enfant, elle aussi. Et cet enfant que porte Élisabeth, c'est Jean-Baptiste. Et voilà. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ?» Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » C'est Élisabeth qui parle de Jean-Baptiste. « Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit, littéralement, et dans l'exultation, mon esprit exulte à cause de Dieu, mon Sauveur. » Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alors, comme pour Siméon qui tient Jésus dans ses bras, on a là un très beau tableau. Et on a envie de mettre des auréoles un petit peu partout, c'est joli, hein, Élisabeth et Marie, mais on oublie que les auréoles sont apparues bien plus tard et que nous avons simplement deux femmes normales, entre guillemets, et enceintes, et qui se rencontrent et qui sont dans la joie. Regardez ce détail, on voit le ventre un peu arrondi, la main sur le ventre, position de femme enceinte. Mes deux belles filles sont enceintes, Élisabeth et Marie. Non, Élise et Emma. Elles vont accoucher d'ici quelques mois. Et quand je les vois ensemble, on les a vues ensemble à Thanksgiving, il y a 3 semaines, elles sont joyeuses. C'est chouette d'être enceinte. Après ça, bon bref. Et donc, on est un petit peu comme Jean-Baptiste et Jésus dans le liquide amniotique, on baigne dans la joie. Et une joie déjà annoncée aux bergers, hein, je vous annonce une bonne nouvelle, un évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. En grec, mégalé kara, une méga joie, on dirait aujourd'hui. Et aussi à Marie, lors de la visite de l'ange Gabriel, qu'on appelle l'Annonciation, ici on est dans la Visitation, on appelle l'Annonciation, « Réjouis-toi Marie, à qui une grâce a été faite ». À Noël, on baigne dans la joie et ces deux femmes enceintes la vivent de près, de très près, à l'intérieur d'elles-mêmes. En fait, c'est la joie de Jean-Baptiste. C'est lui qui remue. Je ne sais pas ce qu'elle a senti, Élisabeth, mais c'est magnifique. Comme quoi, il y a une vie. Alors oui, la joie est grande en cette période de Noël et elle a tendance à se propager. Ah, j'ai oublié de Voilà, regardez ces deux femmes. J'ai trouvé une image. Elles rient. Elles sont dans la joie. C'est coloré. Et donc, dans cette période de Noël, la joie a tendance à se propager. On chante la joie, on cherche la joie. Parfois, c'est un petit peu artificiel. Mais je vous propose quand même de se pencher, de nous pencher ce matin sur la joie de Marie. La joie de Marie dans Luc 1 et dans Luc 2. Et se poser la question de l'après. Et par la suite, où en est-on ? Vas-y, appuie. Dans la joie de Marie. Elle est où la joie de Marie après ? Quand Jésus a un mois et qu'il l'amène au temple, il y a Siméon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé la semaine dernière sur l'espérance, qui va dire de belles choses sur Jésus, il sera la lumière des nations, mais il va terminer en disant, et en s'adressant à Marie particulièrement, « Ton cœur sera transpercé comme une épée. » Pouf, déjà, la joie retombe, n'est-ce pas ? Et puis, un peu plus tard, Jésus, à 12 ans, il va au temple, et il discute avec les gens, il discute théologie, il a 12 ans, il est un peu précoce, et il ne rentre pas avec ses parents ne s'aperçoivent pas qu'il n'est pas rentré avec eux, parce qu'il rentre en groupe, et ils reviennent à Jérusalem, et il y a Marie, enfin il est dit dans Luc 2, quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion, c'est peut-être pas de la joie là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu fait cela ? Mon père, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il y a Luciné qui nous a parlé d'inquiétude tout à l'heure. Et dans ce verset, on ne sent pas trop la joie. Il y a de l'émotion, certes, mais pas trop de joie. Il y aurait plutôt de l'inquiétude, comme une pointe de reproche aussi à son fils. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Aux noces de Cana, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il n'y a plus de vin, il n'y a que de l'eau à boire. La fête est, est dangereusement compromise. Merci Sylvie. Et il s'adresse à Marie qui essaye de prendre les choses en main, et puis Jésus va avoir cette phrase. « Femme, que me veux-tu ? » Alors, quand on lit les commentaires, il est bien dit, ce n'est pas une phrase de mépris, c'est une phrase de une formule de politesse qui permettait de garder une distance, mais sans mépris. Oui, mais garder une distance. Votre fils veut garder une distance par rapport à vous. Ça fait mal. Dans le cœur d'une mère, d'être un petit peu comme cela, mise à l'écart. Un autre événement, un peu plus loin dans l'évangile, la mère et les frères de Jésus sont dehors et ils veulent voir Jésus. Et Jésus répond, cette phrase terrible, ma mère et mes frères, enfin cette phrase magnifique, pardon, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Wow, théologiquement c'est vrai. Et Marie, elle n'a rien à dire là contre, comme on dit à Bruxelles. Elle ne peut rien dire là contre. Mais, quand son fils refuse de la voir et dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu », ça fait mal hein, d'être ostracisé, d'être mis à l'écart. Vous êtes d'accord, les mères qui sont là ? Ok, il veut prendre son indépendance, mais enfin, bon... Il me laisse à la porte. Et puis vient le grand moment, celui de la crucifixion. Il nous est dit dans l'évangile aussi, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et là, le cœur de Marie est transpercé comme par une épée, selon ce qu'avait dit Siméon. Une douleur incroyable, il n'y a rien de plus douloureux, dit-on, que de perdre son enfant. Et qui peut parler encore de joie pour Marie, là, au pied de la croix, alors qu'elle perd son fils dans la fleur de l'âge. Il est loin le temps de la visitation de sa cousine Élisabeth, ou chez sa cousine Élisabeth, elle n'a aucune envie de chanter le Magnificat, Marie. Alors je me dis que peut-être la joie de Marie est encore là, mais en profondeur, fondamentale, parce qu'il nous est dit dans l'Évangile, surtout au début, que Marie gardait dans son cœur toutes les paroles qu'elle entendait sur Jésus, son Fils. La joie est peut-être là, latente, souterraine, fondamentale. Mais au pied de la croix, à cet instant T, on ne peut pas parler de joie. Elle est enfouie sous le poids des émotions qui sont venues, quelque part, lui voler sa joie. On a parlé la semaine dernière, pour l'espérance, des lieux de désespérance. Pour la joie, on pourrait parler des voleurs de joie ou des voleuses de joie. Des voleurs, des voleuses qui viennent subrepticement s'introduire dans nos vies. L'inquiétude. Lucinée est inquiète parce que, et c'est, j'ai trouvé que c'était paradoxal, sa fille se perd à la fête foraine. La fête où on est joyeux. Elle était prise par l'inquiétude. Heureusement, ça s'est bien terminé. Mais les inquiétudes, l'inquiétude, le cœur déprimé, le passage des Proverbes, mine notre joie. Les circonstances défavorables, les désillusions, la pesanteur de la vie, tout simplement, l'ennui existentiel, les déceptions, les problèmes et leur accumulation, tout ça sont des voleurs de joie. Et le deuil. Mon papa est mort il y a 29 ans, pratiquement jour pour jour, le 16 décembre 1996. Il avait 65 ans, j'en avais 34. Et avec mes deux sœurs et ma maman, on était dévastés. Il est parti en une nuit, alors que j'étais à une réunion de prière. Il est parti en une nuit d'une crise cardiaque, une incommensurable tristesse. Et quelques jours après l'enterrement, peut-être 4, 5 ou 3, nous étions en famille à table avec nos trois enfants. Et il y avait une ambiance très triste. Et notre petite fille Tamara, qui avait 8 ans à l'époque, s'adresse à moi et me dit « Dis papa, est-ce qu'il y aura encore de la joie pour nous dans cette famille ?» Et mon cœur de père, wow, ça a été un électrochoc pour moi, et la joie est revenue, ça a mis du temps. Souvenir, c'est 6 mois quand même. Mais Tamara posait la bonne question, et elle pose encore, maintenant qu'elle a 38 ans, toujours les bonnes questions, de savoir si la joie était vraiment possible dans cette vie et avec tous ceux qui nous vole la joie. La joie, vraiment, la Bible, et Lucinée l'a cité, nous parle, il y a dans la Bible comme un encouragement malgré tout à la joie. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire pour préparer cette prédication, j'ai sorti toutes les occurrences du mot joie ou se réjouir dans le Nouveau Testament, il y en a 150. Et donc, j'ai passé tout en revue et j'ai une masse d'informations à vous communiquer, mais je ne vais pas le faire. Mais cet encouragement, cette injonction à la joie pourrait tourner à une sinistre plaisanterie. Se réjouir, vraiment ? Mais tu n'es pas sérieux ? Comment se réjouir avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans ma vie ? Tu ne connais pas ma vie. Si tu ne connaissais pas ma vie, tu ne parlerais pas de joie. Et pourtant, Dieu nous parle de joie pour Marie et pour nous. Et il persiste et signe dans son épître aux Philippiens qu'a cité Lucinée, Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours !» Et il se répète, « Oui, je le répète, soyez dans la joie !» Il insiste, Paul, l'apôtre Paul, et il signe. Et dans cette encouragement, cette invitation à la joie, c'est le mot « toujours », n'est-ce pas, qui pose problème. On peut penser à quelques moments de joie dans son existence, à la naissance d'un enfant, au mariage, peut-être. Mais quand Dieu nous parle d'une joie, mais être toujours joyeux, c'est complètement hors vie, hors sol. On ne peut pas être toujours joyeux. Mais Dieu, par sa parole, nous parle d'une joie soutenue, comme disait Augustine pour l'espérance la semaine dernière. Une joie fondamentale, une joie permanente, et cela malgré les circonstances, ou en dépit des circonstances, ou au-delà des circonstances, moi je dirais plutôt au milieu des circonstances, dans les circonstances. Et pour rappel, Paul nous écrit cela quand il est en prison à Philippe, non pas à Philippe justement, à Rome. Et la prison à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on est seul, on est isolé. En plus, les autres de son entourage ont critiqué Paul parce qu'il était en prison, en disant « ça c'est un échec de son ministère, Dieu ne l'a pas béni, il est en prison ». Il est doublement en prison, Paul. Et il nous dit de sa prison, dans la solitude morale, physique, réjouissez-vous, toujours. Si c'était Brad Pitt qui fait de la pub pour le même appareil à café DeLonghi, là, je l'ai vu hier, Brad Pitt, la star des stars. Il est beau comme tout, moi c'est mon préféré. Il est riche, quand il arrive sur les marches du palais, là, toute la foule fait oh. Si c'était Brad Pitt qui nous disait, et vous, réjouissez-vous les amis, ce serait indécent. Mais c'est Paul qui parle, il est en prison. Et là, c'est pertinent quand il nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, et il ajoute un petit mot tellement important, dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le lieu de la joie, c'est dans le Seigneur, ne se trouve pas dans les circonstances, ça on le savait, ne se trouve pas dans l'ambiance générale, on le savait aussi, mais dans le Seigneur. Et la Bible du Semeur traduit. T'as appuyé en même temps que moi ? Non, mais on peut revenir en arrière ? Ouais. Ça, elle est devenue ultra sensible, cette zapette. Traduit pour « dans le Seigneur » de tout ce que le Seigneur est pour vous. De tout ce que le Seigneur représente pour vous. Et je vais donner quelques idées de ce que le Seigneur représente pour nous par rapport à la joie. Et voilà, dans le Seigneur, qu'est-ce que ça pourrait dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnaire africain en visite à Jérusalem ? Jésus représente le salut. Il a lu avec Philippe sur son char Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur le Christ, Ésaïe. Ésaïe 53. Et il y croit. Et il se fait baptiser. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Le haut fonctionnaire de la reine de Candace, après son baptême, tout joyeux, il poursuivit sa route. La joie du salut, la joie du pardon, la joie de la libération, la joie de la délivrance. Et on étudie ce texte de Acte 8, quand on fait la préparation au baptême, il y a tout là-dedans, et la joie aussi. Il y a la joie du service. Quand le serviteur s'entend dire de son maître, entre dans la joie de ton maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous l'avons rappelé à la formation que nous avons faite sur la découverte de son ministère, c'est-à-dire de son service et de ses dons. Nous sommes tous appelés à être comme Marie, des servantes, des serviteurs. Et dans ce service, il y a la joie. La joie d'entendre le maître nous dire « entre dans la joie de ton maître. Et puis, il y a évidemment aussi la joie de la résurrection. J'en ai déjà parlé pour l'espérance de la résurrection. On ne va pas y revenir, mais quand même un petit peu. Beaucoup de joie parmi les disciples quand ils voient Jésus ressuscité. Quant à eux, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Et les femmes aussi, les femmes au tombeau également. La joie du ressuscité, la surprise et la joie. Celui qui était mort est revenu à la vie. Et nous, avec lui. Et j'imagine, Marie n'est pas citée, mais j'imagine qu'elle est là avec les autres Marie, Marie de Magdala, Marie Madeleine, et Marie, femme de Jacques, je crois aussi. Et puis Marie, Marie est là. Ça change la donne, la résurrection au niveau de la joie. Et puis, dernier texte sur la joie, ce que Jésus représente pour nous. Il y a ce texte après son baptême, le baptême de Jésus, il y a les trois évangiles synoptiques qui nous disent « Une voix retentit du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et vous savez que lorsque nous sommes en Christ, chrétiens, notre vie est cachée en Christ. Nous sommes en lui. Et Dieu nous voit à travers son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il peut dire, qu'il dit, qu'il te dit ce matin, « Tu es ma fille bien-aimée, tu fais toute ma joie. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et quand un père biologique ou autre nous dit « Écoute, mon fils, tu fais toute ma joie », mon père me le disait, pas dans ces termes-là, c'est déjà bien. Mais quand le Père céleste, le Père qui est aux cieux, te dit « Tu fais toute ma joie », ça change tout aussi, au niveau de ma joie, au quotidien. Alors oui, Jésus, le Seigneur de la vie, est le lieu de notre joie, mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, même si serait-il spirituel, ces bisounours. On sait que notre joie est bien fragile, elle est comme un frêle esquif sur un océan de vagues, de tristesse, de dépression, de pleurs, de larmes, soumise aux circonstances de la vie que l'on ne maîtrise pas. Et la Bible n'est pas dans le déni. Elle n'est pas dans l'utopie idéaliste, mais malgré tout, elle ouvre un horizon pour la joie. Il y a un passage de l'évangile de Jean, Jésus parle à ses disciples de sa mort prochaine. Sur la croix, il parle de douleur, il parle de tristesse, il parle de dispersion. Il dresse un tableau tout à fait réaliste, mais il parle aussi de joie. Le mot revient plusieurs fois, et la Bible du Semeur mais comme titre pour ce passage de Jean 16, « De la tristesse à la joie ». Et Jésus va prendre l'exemple de l'accouchement. Ça tombe bien avec la visitation. Mais il va dire, les femmes qui accouchent, elles sont dans la douleur, les douleurs de l'enfantement, mais ça donne à la joie, ça ouvre sur la joie. Je ne parle pas d'expérience, mais... C'est clair. Et il va dire une chose essentielle sur la joie par rapport à la souffrance. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. La joie de l'Éternel, Lucinée, la cité de Néhémie, et ma force. Personne ne pourra vous l'enlever. Pas de voleur de joie avec Christ. Alors, les voleurs et les voleuses sont toujours là. Et ils essayent de nous l'enlever, mais on a comme un lieu sûr, un lieu safe en Jésus pour vivre cette joie. Il est dans notre bateau, notre frêle esquif, soumis aux vents contraires et aux vagues parfois scélérates. Vous savez, c'est une fois par an, une vague de 35 mètres. Et aux aléas de la vie, Et dans ce frêle esquif soumis aux vagues, il se lève et il dit à la tempête « Silence !» dis-je en criant. « Silence, les éléments. Silence, la tempête. » Et le calme revient dans la barque et la joie revient, celle de ramer ensemble avec d'autres et avec Jésus au fond de la barque. Alors, comme pour l'espérance, j'ai cherché un verbe pour accompagner cet en avant vers la joie. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Vivre dans la joie ? C'est un peu plat. Marcher dans la joie ? Ouais, c'est pas mal, il y a un peu de mouvement. Je propose un autre verbe. Embarquez-vous dans la joie. Et même, plus précisément, dans la joie de l'esprit. Et je reviens sur cette métaphore de la barque, de l'embarquement dans le bateau de la joie. Il y a une décision à prendre, celle de monter dans cette barque avec Jésus. C'est le pas de la foi et c'est un pas, un petit moment, inconfortable. Hein, on tire, on laisse, on quitte la terre ferme et on part un petit peu à l'aventure de la foi. Et à un moment, il y a un moment inconfortable, un moment un petit peu dangereux, un moment un petit peu délicat. Mais c'est un pas à faire pour monter dans la barque. Mais en même temps, et par après, on se laisse embarquer dans ce voyage joyeux avec Christ. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire une fois dans la barque. De temps en temps, il faut ramer, il faut souquer ferme, moussaillon. Mais dans le même temps, en fait, tout est fait. C'est comme le fruit de l'esprit de Galates 5:20, où vous avez, quelle technique, la joie, comme un fruit de l'esprit. Et un fruit, tout ce qu'il a à faire, me semble-t-il, c'est de rester attaché à l'arbre ou à la branche. C'est comme le sarment pour la vigne. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rester attaché au cep. Et il produit, et il se produit lui-même, le fruit. Et il produit la joie dans la vie. Tout est accompli en Jésus par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, l'espérance, la joie et tout le reste est déjà en lui. Il n'y a plus qu'à vivre avec lui pour que notre joie, et c'est un adjectif qui revient souvent dans la Bible, pour que votre joie soit parfaite, soit complète, soit accomplie. Il n'y a plus qu'à. Laissez-vous embarquer dans le bateau de la joie. Et pour terminer cette prédication, j'ai pensé à cette expression « en avant toute » pour jouer encore sur l'orthographe « e » ou « a ». En avant toute. Et je suis tombé, non pas avec l'intelligence artificielle, mais bêtement sur Internet, sur cette définition, est une expression française qui évoque l'idée de progression, de courage et de détermination. Utilisée tant dans le contexte militaire que dans le langage courant, cette formule invite à avancer sans retenue, à faire preuve d'audace face aux défis, face aux lieux de désespérance, face aux voleurs et aux voleuses de joie. J'ai trouvé que c'était pas mal pour nous et pour la joie, faire preuve de courage, c'est-à-dire de cœur, de détermination, d'audace. Et on pourrait ajouter, faire preuve de foi, foi en lui, le lieu de notre joie. Alors pour vraiment terminer cette fois, je vais citer Paul, l'apôtre Paul encore lui, dans sa deuxième épître aux Corinthiens. 13 chapitres. Dernier verset de ce 13e chapitre, 13 chapitres, c'est long 13 chapitres, à lire en public dans l'église, c'est long. Et on imagine les gens qui disent, Paul dit, j'ai terminé frères et sœurs. C'était long, comme vous le dites peut-être ce matin, certainement d'ailleurs. Mais voilà ce qu'il dit, j'ai terminé frères et sœurs, soyez dans la joie. J'ai terminé frères et sœurs, soyez dans la joie. Par la grâce de Dieu. Amen.